Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast qui donne envie de ken. Alors chaque épisode est l'occasion de déconstruire l'intimité sans aucun tabou. On parle de nos positions préférées, des pratiques qu'on a essayées, des fantasmes qui dérangent et d'orgasmes qui éclaboussent. Bref, on parle de tout quoi. Et aujourd'hui, je suis refaite. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on va parler de mon livre. Oui, de mon livre. Comment redécouvrir votre sexualité qui est sorti en février 2024 chez Les Détonantes. Et merci Camille qui vient de montrer mon livre à la caméra pour celles qui nous regardent. Dans ce livre, je parle de nos représentations sexuelles. Je parle de Charmed. Oui, de Charmed. Ah, tu disais Charmed ou Charmed, toi?
Moi, je disais Charmed.
Moi, je disais Charmed.
Ah ouais?
Moi.
Sauf français.
Je pense que j'avais pas encore conscience du fait que c'était pas du français.
Et tu disais Phoebe, du coup?
Phoebe.
Pru?
Phoebe, Prou.
Piper.
Piper.
Tu t'es arrêté.
Exactement. Voilà, donc je parle de charme, je parle aussi du female gaze, du BDSM, je parle de l'archétype de la meuf chill, je parle de la meuf vanille aussi, des fantasmes et bref, en général de la masturbation. Donc je parle de tout plein de choses. Le tout est un mélange d'anecdotes, de résultats d'enquête, d'analyse et aussi je parle de mes propres expériences. Donc si vous voulez en savoir encore plus sur ma vie sexuelle. J'ai pas envie que ce soit la motivation principale pour acheter ce livre quand même, mais tout est là-dedans. Bref, c'est un vrai sujet de débauché.
Ouais.
Et donc Camille a quelques questions pour moi. Allez, on y va.
Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche.
Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédac-chef. Alors Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couples qui font l'amour et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors j'ai une petite surprise pour vous mes débauchés. Vous pouvez recevoir un audio entier gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Je vous laisse avec un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance.
On est pourtant Camille, mais ce soir... tu me plais, encore plus que d'ordinaire. Il y a quelque chose qui circule dans l'air, une brise d'impertinence. Tu dois sentir le poids de mon regard, car soudain, tu plantes tes yeux dans les miens.
Cool.
Pas mal.
Bah ouais, pas mal. Ça nous met dans l'ambiance, dans le sujet.
Ouais. Eh ben, est-ce qu'on n'irait pas parler de ton livre, par exemple?
Ouais, carrément.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens? Comment est née cette idée, l'idée de l'écrire, justement? Est-ce que tu as un événement qui t'a donné l'impulsion?
Alors, je pense que, de base, c'était pour moi une évidence de finir par écrire quelque chose sur la masturbation. Bon, déjà, en étant rédac-chef chez Femtasy, je suis quand même vraiment au contact avec les utilisatrices, avec leurs problématiques, avec leurs désirs, leurs fantasmes. Donc, il y a encore plein de choses à dire, parce que, mine de rien, la masturbation... spécifiquement en Femtasy, mais aussi en général, en fait. La sexualité féminine et le plaisir féminin, c'est un sujet qui est hyper tabou. Ça reste quand même quelque chose, on en parle un peu plus maintenant, mais ça reste un sujet qui met mal à l'aise. En général, on associe ça à la vulgarité, c'est obscène. Parler de cul et parler de ce dont tu as envie et comment tu touches, comment tu fais l'amour, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire taire. Et je pense que c'était aussi ça, en fait, ce que j'ai voulu faire dans le livre. D'ailleurs, je dis que je dédicace le bouquin à toutes les conversations WhatsApp qui commencent par « les meufs, vous savez pas quoi
».
Parce que c'est vraiment ça, en fait. Tous les apéros qui finissent à 2h du mat, parce qu'en fait, on se raconte toutes nos histoires. Mm. Et c'est lorsque les femmes parlent, et lorsqu'elles parlent de sexe, en fait, qu'on peut se rendre compte de choses structurelles. Qu'on peut se rendre compte qu'il y a forcément des choses qui reviennent tout le temps. C'est dans le miroir, en fait, de ta pote qui va te regarder, genre « what the fuck » quand tu racontes ton coup d'un soir, que tu te rends compte qu'il se passe quelque chose dans ta sexualité, que tu peux mettre les termes dessus et que tu peux mieux vivre ta sexualité. Donc je pense que c'était ça le contexte un peu général. Après, un truc qui m'a vraiment ouvert les yeux, ça a été de voir mes amis qui, pour moi, enfin, j'ai des potes qui me paraissent tellement déconstruites, qui sont des exemples de féminisme, enfin, qui, moi, m'inspirent de ouf, tu vois. Elles ont lu tout Mona Chollet, elles vont à toutes les manifs, tu vois. Elles ont la répartition des tâches dans leur couple. Tu vois, genre, les meufs, typiquement, elles se laissent pousser les poils parce qu'elles ont envie de se laisser pousser les poils. Bref, genre, des meufs qui sont vraiment, elles check toutes les boxes vraiment de la meuf déconstruite. Et pourtant, elles vont me dire, qu'elles se sentent pas bien parce qu'elles ont l'impression de pas ken assez. Elles vont me dire qu'elles simulent parfois les orgasmes, que parfois elles font encore l'amour alors qu'elles n'en ont pas forcément très envie. Donc vraiment, la sexualité féminine reste un bastion renforcé du patriarcat. Donc je pense que là, il y avait vraiment un truc à faire. Donc voilà, je me suis dit, allez, j'y vais. Je raconte mes histoires et j'essaie de vraiment dire les termes.
Waouh !
Moi ?
J'achète direct, c'est déjà fait. Et tu parles, tu commences par, ton livre par les représentations sexuelles, et il y a quelque chose qui m'a, une idée qui m'a beaucoup interloqué, c'est la super baiseuse virginale.
Ouais.
Déjà, c'est un peu antagoniste.
Carrément.
Comme idée.
Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de superwoman, mais en même temps pas du tout. Qu'est-ce que c'est, ce mythe?
Ouais. Alors, du coup, donc j'ai, effectivement, je commence ce livre en parlant de les représentations sexuelles. C'est en fait tout ce système d'images, de représentations mentales, en fait, qu'on a construites, enfin, et qui ont été construites pour nous, hein, on a été formatés, et qui nous donnent cette espèce d'image, d'archétype du bon coup. Donc de la meuf, du coup, qui baisse bien, qui est active, qui est chill, qui est ben, proactive, qui a plein d'idées, qui est créative, qui sait faire jouir, qui sait faire plaisir. Enfin, toute cette espèce de, d'image mentale autour de ce que c'est que d'être hyper pressurisante, qui forme en fait la ben, super baiseuse. Mm. Mais mine de rien, cette super baiseuse, il ne faut pas qu'elle tombe dans le vulgaire. Donc il y a quand même cette idée que lorsque tu es une femme, il faut pas que tu montres trop que tu as envie de faire l'amour, il faut pas que tu le fasses, faut pas que tu aies trop de body count, faut pas que tu aies eu trop de partenaires. Donc il y a cette sorte d'ambivalence qui crée un archétype qui est complètement irréalisable, c'est vraiment un mythe, qui est cette super baiseuse virginale. Et ouais, et lorsque je parle de ce pouvoir, c'est ce pouvoir des représentations, c'est que mine de rien, ça va jouer un impact très très fort sur la façon dont on se perçoit, de la façon dont on vit notre sexualité, parce qu'il y a ce décalage entre ce mythe et la réalité de la sexualité féminine, qui est que bah, on n'a rien fait pour que nous on prenne notre pied. Donc forcément, ça crée une sorte de vraiment de dualité. Et toutes les meufs à qui j'ai parlé pendant cette enquête et pendant l'écriture de ce livre, elles portent une énorme culpabilité. Que ce soit la, la sensation de pas faire assez l'amour, de pas avoir assez envie de faire l'amour, de pas se toucher, de pas savoir ce qu'elles aiment, de pas savoir le dire, de bref, toutes ces choses-là font qu'il y a cette la honte et la culpabilité qui est au cœur de la sexualité féminine contemporaine.
Et j'ai l'impression que quand on parle, c'est un peu là, il y a un peu ce mythe de la bonne et de la mauvaise salope, comme s'il y avait une bonne
Bien
manière.
Sûr.
D'être une salope qui correspondrait un peu, c'est toujours le male gaze, où on correspondrait à l'image qu'un mec a envie qu'on soit, c'est-à-dire ce que tu dis, un peu super baiseuse, hyper, et en même temps, qu'on soit assez sage et présentable aux parents pour pas non plus effrayer.
Complètement.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
C'est ce qui se perçoit dans cette super baiseuse virginale, en fait.
Exactement. Et j'ai même j'ai demandé à des hommes cis, c'est quoi pour vous un bon coup?
Ouais.
Et mais tu sais, j'étais un petit peu partagée parce que je me dis, au final, est-ce qu'on s'en fout? Tu
vois,
est-ce qu'on s'en foutrait pas,
c'est
en fait, ce que c'est, ce que c'est finalement ce qu'ils attendent, en fait, d'un bon coup. Mais d'un autre côté, mine de rien, en fait, lorsqu'on est en contact des hommes, qu'on soit bi ou hétéro, on va quand même essuyer, en fait, leur propre projection de la sexualité, et ce qu'ils attendent de nous en tant qu'êtres sexualisés va nous attendre, qu'on le veuille ou non. Donc, même si on s'en bat les steaks, en fait, de ce que eux veulent, ce qui, j'espère, sera un peu un des effets du livre, ça va nous attendre. Donc, je pense que c'est bien de savoir, en fait, quelles sont leurs attentes. Et même pour mieux les ignorer.
Ouais.
Mais donc, ce qu'il disait à propos du bon coup, c'était d'avoir des femmes actives. Et j'ai trouvé ça passionnant, en fait, parce que tu avais l'idée qu'une femme pouvait être passive, en fait, en faisant l'amour. À aucun moment, ces mecs se sont demandé si elles sont passives parce qu'elles n'ont pas envie d'être là. Déjà, ça, c'est un énorme sujet, parce que je ne tombe pas dans le sexe non consenti, qui est plus du sexe qui est du viol, mais du sexe, il y a quand même plus de... Enfin, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis, il y a quand même plus de 50% des femmes qui régulièrement font du sexe alors qu'elles n'ont pas trop envie, parce qu'elles ont l'impression qu'il faut qu'elles fassent du sexe. Et donc là, voilà, donc cette notion de femme active lors du sexe, que c'est ça d'être un bon coup, c'est de savoir quoi faire, d'avoir plein d'idées pour faire des positions X ou Y, de pouvoir faire jouir l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de vraiment vouloir faire plaisir. Et dans tout ça, en fait, il n'y a rien qui est fait pour que les femmes prennent leur pied.
Ouais. Et puis par moment, tu as l'impression que c'est un peu un discours qui est tenu, mais à partir du moment où... Enfin, il y a beaucoup de passivité. On a l'impression par moment que c'est mal vécu aussi, parce que il y a un peu cette image du mec aussi qui doit garder son rôle actif. Enfin, moi, j'ai déjà eu cette impression-là dans les relations sexuelles aussi, qu'il faut pas être trop active non plus pour pas enlever parfois le postulat de
ouais, bien sûr,
de ça. Mais et comment tu t'y es pris dans ta démarche? Du coup, t'as emmagasiné un maximum de comment tu t'y es pris pour l'écrire, le livre, justement?
J'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, donc avec Femtasy on a accès à toute une pool de personnes qui ont bien voulu répondre à de nombreuses enquêtes sur l'intimité, la sexualité, leur rapport au corps, donc c'est très très large. Et puis j'ai rencontré une vingtaine de personnes, donc une vingtaine de femmes, de profils très différents, hein, donc qu'elles soient en couple, pas en couple, de 20 à 67 ans. Et qui, vraiment des profils très variés. Elles sont femmes de ménage, avocates, étudiantes, vraiment plein de statuts aussi sociaux différents et de backgrounds et d'ethnicités différentes. Et voilà, et je leur ai demandé quelles sont vos plus grandes problématiques liées au sexe, est-ce que ça vous arrive encore de simuler, quelles sont vos positions préférées, tralala. Et puis avec tout ça, j'ai eu plein d'anecdotes, et donc le livre est parcouru de témoignages. Et ça, je pense que ça fait la différence, parce qu'on a envie de se sentir moins seul, en fait. Donc, voilà.
Trop bien. Et tu parles aussi de l'impact de la famille, de la pop culture dans le sexe. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots?
Ouais. Alors du coup, je pense qu'il y a un premier sujet qui, en général, fait froid dans le dos, c'est de se dire qu'on est chorégraphié. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des scripts sociosexuels qui vont engendrer des chorégraphies sexuelles. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la chambre à coucher, en réalité, c'est politique, c'est public d'une certaine manière. C'est comme les fantasmes, hein. C'est pas très très intime, hein. Mine de rien, c'est structurel. Donc en fait, la façon dont les positions qui vont s'enchaîner ou juste la dynamique dans les rapports, en particulier hétéro, c'est quelque chose qui a été pré-écrit à l'avance.
Comment ça?
Justement, c'est ça, c'est les représentations sexuelles, c'est-à-dire la façon dont on s'imagine que c'est de bien faire le sexe ou d'être baisable ou d'être une bonne baiseuse, c'est quelque chose qui a été mis en place par ce que j'appelle moi des agents formateurs. Donc il y en a toute une palampée. Palampée,
on ne sait pas, mais en tout cas j'aime bien.
Ouais, un éventail. Une multitude. une pléthorée. Non, c'est pas ça. Bref, un éventail d'agents formateurs. Et donc, je les nomme. Donc, la famille, l'école, la pop culture et le porno, ils ont tous un effet. Ils vont créer une sorte de représentation différente du sexe. Donc, la famille, ça va être des représentations préventives. L'école, des représentations reproductives. Le porno, okay. Des représentations performatives. Et la pop culture, figurative. Donc, ouais, j'ai fait tout un système. j'ai fait un système. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est capital, en fait, de se rendre compte que ces différents agents vont impacter notre façon d'appréhender le sexe, typiquement la famille. Ça, c'est passionnant. Ça fait, encore une fois, ça peut être un peu difficile parce qu'on peut se sentir un peu dépossédé de notre libre arbitre. Mais c'est la première étape de la déconstruction, c'est vraiment se rendre compte des choses. Donc, la famille, on est des êtres sexualisés depuis qu'on est toute petite. Hein. Donc, ça, c'est déjà un gros sujet de dire que oui, à 4 ans, c'est possible d'avoir un orgasme en étant une petite fille. Et ça arrive très souvent. C'est la moyenne d'âge du premier orgasme. Donc, lorsqu'on commence à s'éveiller, à sentir le plaisir, etc., potentiellement, en étant une petite fille, on va frotter là où ça fait du bien. Les parents et les adultes, quand ils voient ça, ils vont avoir une tendance, du coup, à shamer, quoi. À dire, non, fais pas ça, touche pas, c'est sale, etc. Alors qu'en fait, il y avait une véritable opportunité à permettre à l'enfant d'avoir une relation saine vis-à-vis du plaisir. À se dire, écoute, fais pas ça en public, mets-toi en sécurité, va dans ta chambre, fais ça tout seul, explore-toi. Mmh. Dis-toi bien, tu pouvais aussi placer les bases du consentement. Dis-toi que c'est que toi qui peux toucher, tu peux toucher personne d'autre sans avoir leurs accords. Ensemble, à cet âge-là, tu touches personne d'autre, tu peux toucher que toi, tu laisses personne d'autre faire ça. Bref, il y avait une opportunité pour construire les bases d'une sexualité saine, mais en général, pour la plupart des gens, moi y compris, on va être dans une démarche qui est plus, du coup, dans la honte, de dire « fais pas ça, c'est sale ». Donc, c'est pour ça que je parle de la famille comme agent formateur, et ça peut soit mieux, soit en s'empirant, mais ça continue à s'accentuer, parce que lorsqu'on est ado, on va avoir la conversation gênante qu'on a avec ses parents, et d'ailleurs, à chaque fois que j'en parle avec toutes m'ont dit que c'était un moment gênant, que c'était l'enfer, quoi. 26% d'entre elles vont associer la sensation d'humiliation au plaisir lié à leur enfance. Parce qu'on va leur dire, tombe pas enceinte, passe sous mon toit, on va essayer de retarder l'échéance de la femme, de la fille qui se sexualise. Donc, la famille aussi, ça va vraiment être le premier instant de sexualisation de l'individu. Donc, on va vraiment reproduire aussi les schémas qu'on observe. Hein. On va observer comment papa se comporte avec maman. Ça va avoir un impact sur notre façon de vivre notre sexualité. Et notre éducation genrée, de toute manière, va impacter très fortement la sexualité. Donc, je pense que la famille, c'est un truc très, très important, que ce soit les traumas intergénérationnels qui vont se passer de mamie à maman à la fille. Bref, la famille, c'est hyper important comme rapport, on va dire, plus dans la prévention, de se dire que le sexe, c'est pas bien. Après, il y a l'école. Comment t'as vécu ta quatrième, toi? Là, avec la quatrième, c'était le programme, c'était la reproduction sexuelle, tu te souviens?
Ouais, en plus, moi, j'étais dans un cateau privé, donc je t'explique qu'en fait, on n'allait pas trop s'étayer sur la question. Et c'est classique, quoi. C'était on pouvait rire, essayer de nous expliquer le moins bien possible en nous shamant de ouf. Stan RPZ, avec tous les débats qu'il y a eu, nous c'était exactement la même éducation, donc c'était très très compliqué. Et on était c'était gênant, quoi. Enfin, t'avais l'impression que c'était une punition, d'autant plus que t'es avec des camarades de classe qui comprennent pas du tout et on va te montrer une sorte de vieux schéma. Enfin, pas bien, quoi.
Ouais. Ouais. Bah ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que, enfin, moi aussi, j'ai vécu comme ça pour la cour, le cours de SVT. Rien que le fait que ce soit la reproduction humaine. Mais ouais. Ça va pas la tête, quoi.
Ouais, il y avait cette vidéo horrible où tu voyais une femme qui accouchait de faceplant et du coup c'était très trauma.
Oh merde, effectivement, ouais. Ouais, je pense que pour l'école à ce moment-là, parce que tu dis, ok, le fait qu'on ait tout potentiellement eu une éducation qui était pas top, une éducation sexuelle pas top dans les familles ou qu'il y ait des grosses différences, on dit, ok, l'école est censée là pour un peu aligner ou mettre à tout le monde à l'égalité. Mais le problème, enfin le gros problème, c'est qu'on parle pas de consentement, on parle pas de plaisir. Enfin, à l'école, on dit quand même pas que le sexe est censé faire du bien. On dit le sexe est censé faire des enfants, donc faites attention à pas tomber enceinte, et puis attention aux maladies sexuellement transmissibles. Ah ouais. Mais c'est-à-dire qu'on dit à des ados qui ont les hormones mais en folaille, qui potentiellement commencent à se masturber de façon assez intense, et on leur dit pas que le sexe ça provoque, y a plein d'hormones qui se libèrent, que ça peut provoquer beaucoup d'émotions, que c'est censé faire du bien et qu'il faut le faire d'une certaine manière. Genre il y a vraiment, on passe complètement à côté de ça. Je trouve que c'est une vision hyper déshumanisante du sexe. Donc ça aussi, ça va avoir un impact très fort sur les représentations sexuelles de tous ceux qui sont passés par l'école et avoir du coup cet aspect de représentation reproductive. Et enfin, il y a trop de choses à dire.
Hein, wow, mais
un des plus gros sujets, forcément, c'est la façon dont la sexualité féminine est représentée à l'écran. Donc que ce soit les films ou les séries, comment est-ce que les femmes jouissent à l'écran? Tu vois, comment est-ce qu'on va représenter l'orgasme? Donc ça, je laisse vraiment... le crédit à Iris Black qui a fait un superbe travail sur le female gaze, etc. Moi, je me suis intéressée à un truc, à un programme en particulier. Oui. C'était du coup Charmed.
Charmed.
parce que, mine de rien, c'était quand même un truc assez badass, tu vois. Donc, t'as trois sorcières. Donc, déjà, avec les personnages principaux, ce soit trois meufs qui, bon, ok, Piper, elle voulait tout le temps se caser et on passe des saisons et des saisons à la voir essayer de se marier. Mais il y a quand même quelque chose d'assez empouvoirant et plutôt cool d'avoir des meufs qui sont badass.
Empouvoirant.
Ouais, empouvoirant, ouais.
J'adore.
C'est du français pour le coup.
Oui, c'est vrai. Je l'avais pas entendu. Je l'adore.
Voilà. Empouvoirant. Empouvoirant, du coup, d'avoir ces sorcières trop stylées qui ont besoin de personne et qui chassent les démons. Trop bien. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était dans le personnage des Phoebe.
Ouais.
C'était qu'elle, en fait, c'était du coup le personnage, tu sais, un petit peu. Enfin, elle était
très assez... sexuée.
Très sexuée, oui, dans le sens... enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la base, son personnage, il est quand même assez... tu vois, elle est assez douce, elle est assez soft, tu vois, elle est un petit peu maladroite. Ouais, tu vois, elle est très, très, très fleur bleue, très romantique. Et l'intrigue, c'est qu'elle tombe amoureuse de Cole, qui est d'une force démoniaque pure, si ce n'est Satan himself. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme artifice cinématographique, ce qu'ils ont trouvé comme moyen pour la faire devenir un être sexualisé qui va du coup vivre son désir et aller vers Cole et vraiment le choper et vraiment vivre sa sexualité et son désir, c'est en étant possédée elle-même par un esprit. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'ils utilisent cet arc narratif plusieurs fois dans la série.
Okay.
Qu'en fait, pour qu'elle devienne un être sexualisé, elle doit être possédée. Parce que non, la vraie Phoebe,
ouais.
Attention, puis, elle, par contre, elle est sage. Elle est sage. C'est-à-dire que c'était même c'était vraiment un artifice fantastique pour expliquer que, pour que qu'elle garde toute son intégrité en tant que personnage, pour qu'on puisse encore s'identifier à elle, il fallait que ses vices sensuels soient expliqués par le fait d'être possédée.
Okay.
Et donc, pour moi, c'est vraiment genre l'incarnation. De ce pouvoir figuratif en fait des représentations sexuelles.
Quand on regardait la trilogie du samedi, en fait, on était en train de se faire
exactement.
brainwashed le cerveau en nous disant non mais c'est fou parce qu'en fait dans ce que tu dis, dans tous les exemples que tu cites, en fait on se rend compte que la sexualité intervient très tôt en fait dans notre vie, que ce soit dans le cadre justement familial où c'est 4 ans. Moi ça m'étonne pas du tout, je me souviens que les premières fois où j'ai pris du plaisir sans m'en rendre compte, j'avais 6-7 ans, enfin du coup t'es hyper perplexe et on te dit arrête comme ça et t'es là wouh en bonne école mais c'est bien et en fait que ce soit à l'école en fait, enfin là quand tu dis école c'était collège, mais je pense que ça arrive aussi à l'école, enfin tu vois, où tu te rends pas forcément compte mais tu joues beaucoup avec les garçons, enfin il y a des sortes de jeux, des enjeux qui sont très tôt, ou que ce soit dans la pop culture ou Charmed, tu vois, c'est des programmes qu'on regardait et qu'en fait tout ça arrive très très tôt dans notre vie.
Bah, surtout ça arrive de partout en fait, je pense que c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est qu'évidemment on est dans une société hyper sexualisée et qu'en fait le sexe c'est partout et ça prend différentes formes et ça va impacter en fait notre rapport au corps et à l'autre, de enfin vraiment de tous les côtés quoi. Donc c'est Ouais, faut en prendre conscience.
Et pourtant, ça reste le sujet le plus tabou et le topic dont il faut pas parler, où on se fait shadowban par milliers si on ose en parler sur les réseaux, ou en société, c'est quand même très, très déplacé.
Et tu vois, il y a un truc qui est un peu intéressant, c'est vraiment... C'est lorsque j'ai écrit ce livre, tout le monde m'a dit « Mais les femmes françaises, elles sont libérées. Pourquoi est-ce que t'écris ce livre, c'est les Françaises, elles n'ont pas besoin ?»
Ah oui, ce cliché.
Parce qu'il y a ce cliché, effectivement, de la meuf libérée qui fume sa clope à poil après avoir ken, près de la fenêtre, sur le balcon, détente. Et bon, déjà, bon, c'est un mythe.
C'est pas ça, hein.
Oui, c'est pas ça. C'est parce qu'il se passe.
Bouh !
Mind blown. Donc non, déjà, c'est pas le cas. Mais c'est aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très pernicieux dans la société française, en fait, dans la culture française, qui est qu'effectivement, on a un rapport à la séduction, au corps, à l'hédonisme qui fait partie de notre culture, tu vois, que ce soit dans les films, dans la musique, etc., dans la bouffe, vraiment le rapport à la nourriture est extrêmement sensuel. Et je suis d'accord que la culture française, que ce soit, encore une fois, même la langue, tu vois, qui a un rapport très sensuel. Mais à côté de ça, il faut que ça reste à l'ordre du mystique. C'est-à-dire que la figure féminine, elle est sacralisée, elle est mystique, cette espèce d'ange de désir, et da. Mais dès qu'on essaie de dire le terme et d'être « Ah ok, d'accord, donc en fait, cette personne que tu désires, ben, elle a des poils, elle va transpirer, elle va faire da. » Dès qu'on veut rentrer dans le concret et essayer vraiment de comprendre ce qui va la faire jouir, ah là, par contre, il n'y a plus personne, c'est vulgaire, il ne faut pas en parler, non. Donc il y a cette espèce de dualité, et je trouve que c'est très très spécifique à la société française, qui est que le sexe est partout, mais on n'en parle jamais.
Ouais, complètement.
Donc voilà, encore une raison de plus d'écrire plein de livres sur le cul.
Et est-ce que, il me semble que tu parles à un moment de celle qui est bonne, est-ce que je me trompe, bonne à marrer, c'est-à-dire, tu peux, il y a aussi moi toujours ce truc qui m'a vachement fasciné de dire que moi j'avais l'impression que j'étais très souvent le plan cul, ou celle avec qui on va s'amuser, avec qui on va passer du bon temps, mais avec qui tu vas pas te mettre en couple. Est-ce que tu t'es un peu intéressée ou pas à cette question justement de cette femme libérée qui assume sa sexualité, qui la vit, en même temps c'est pas forcément celle qui va se mettre en couple ou être celle avec qui on se met en relation.
Ouais.
Est-ce que c'est un sujet qui est revenu? Parce que moi, c'est vrai que j'ai souvent eu ce ressenti-là de me dire qu'il y avait... en gros, j'étais celle d'avant et puis après, il y avait la sérieuse. Enfin, tu vois ce truc-là?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, ça prend sa place dans l'archétype de la super baiseuse virginale, en fait. Mm. Parce que ce que tu décris, c'est d'avoir été juste une super baiseuse, en fait.
Ouais, je sais.
Et que du coup... Et que du coup, ce qui est attendu de toi dans le marché de la baisabilité, c'est quand même d'avoir ce niveau de retenue et de pudeur.
Ouais.
Qui est, je déteste le mot vraiment, mais qui est attendu afin que tu restes quand même dans les clous. Une personne, une femme qui vit sa sexualité totalement au point d'en être sauvage, ça marche pas, c'est trop dangereux.
Ok, intéressant. Il y a aussi un passage où tu parles un peu plus d'anatomie et de biologie. Dans le livre, parlons clairement de vulve, de clitoris, pourquoi c'était important de les nommer, d'en parler et voilà.
Ouais. Ouais, alors c'était important parce que forcément le vocabulaire, les mots qu'on utilise vont former notre pensée et la façon de notre rapport au monde. Alors vulve et vagin, c'est un mécombat, mais je deviens zinzin. Hein. Je pense que les gens me détestent pour ça. Mais c'est-à-dire que les gens qui utilisent vagin, donc qui est quand même la cavité interne qui relie la vulve au cervix, qui utilisent ce terme du coup vagin au lieu de vulve, qui est du coup tout le truc quoi, qui est du coup le clitoris, les lèvres, le mont du pubis. Enfin, c'est vraiment tout le matos. C'est hyper réducteur. Ça réduit la sexualité, les organes féminins, à juste la partie qui sert en sexualité à la pénétration. Donc c'est encore une fois réduire la sexualité féminine et la penser le corps des femmes en fonction de son usage pour les hommes. Donc c'est hyper réducteur, c'est hyper dangereux. Donc vraiment, faut appeler un minou et appeler une vulve. C'est hyper important et c'est un super beau mot et c'est vraiment quelque chose. Le fait que ce mot soit shadowban sur les réseaux, c'est vraiment scandaleux, quoi. Mais donc appeler une vulve, ça va au fur et à mesure, ça va reformater notre esprit et se détacher d'une sexualité phallocentrée. Le clitoris, alors ça, c'est tout un truc. Je pense que nous, on est vraiment dans cette génération de meufs qui ont été à l'école et on nous a pas parlé du clito.
Non.
Mais
non.
On a.
Le clitoris.
Mais on est celles qui ont aussi été exposées à tous ces comptes Instagram et à tous ces mouvements, ces mouvements féministes qui ont replacé le clitoris au centre de la conversation. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est spécialement conçu pour le plaisir des femmes. Et donc c'est très très beau et il faut qu'on en parle et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on recentre la sexualité autour du clito. Alors moi, ce que j'ai trouvé dingue dans mes recherches, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Marie Chevalet qui a fait en 2021 une étude de la représentation du clitoris dans le corps médical. Je trouve ça hyper important parce que forcément, on fait confiance à nos gynécos pour qu'elles nous aident à nous épanouir sexuellement. Hein. Et donc, elle s'est rendue compte, en faisant une enquête sur 1168 médecins, les médecins avaient une moyenne d'âge de 30 ans, donc pas d'excuses des boomers, ouais. 30 ans, sur tout le territoire français. Et il y en a 70% des gynécos qui ne sont pas formés sur le clitoris, 70%. Et on est à 84,4% sur tout le corps médical. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas être formé ? Ça veut dire qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc il y a 17% des gynécos qui pensent que le clitoris fait entre 0,5 et 1 cm.
Alors que c'est de presque 16...
Presque, ça peut, oui, ouais, ça peut aller au-delà de 10 cm. Ouais. Donc c'est-à-dire vraiment qu'ils réduisaient, même les gynécos pensent que le clitoris c'est juste le capuchon en fait.
Vache, ouais.
Donc ne nous dites pas. Ouais. Ouais, que on sait que c'est n'importe quoi, il y a plus besoin de faire le combat féministe, que c'est bon, tout le monde sait ce que c'est que le clito. Non, même les personnes qui sont censées nous soigner ne savent pas ce que c'est le clitoris. Donc voilà.
Je pense que pourquoi tu as une négation à ce point de même dans le corps médical d'un organe qui est là pour le plaisir et qui existe et qui maintenant est présent quoi. Enfin, c'est plus un mystère, on le sait, la plupart d'entre nous en tout cas, j'espère, sont éduqués à ce niveau-là. Ouais. Pourquoi il y a quelque chose qui bloque à ce point ?
Ouais. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que des meufs qui prennent leurs pieds, qui savent comment se faire jouir et qui ont besoin de personne pour se faire jouir, ça fait peur parce qu'on est forcément l'indépendance sexuelle, c'est terrifiant pour le patriarcat, je pense que c'est ça. Et la deuxième chose, c'est lié à l'orgasme, je pense, en fait. C'est que vraiment, la raison aussi pour laquelle on dit, ouais, l'orgasme féminin, on le met vraiment dans une boîte noire, c'est hyper dur, c'est hyper compliqué, oh là là, c'est presque mystique. Non, en fait. Non, c'est possible hein, de jouir. Il faut juste savoir comment s'y prendre, en fait. Donc, je pense que si on avait passé autant de temps à essayer de comprendre comment faire jouir les femmes, plutôt qu'essayer de se dédouaner et de se détendre, de dire « Ah, mais c'est pas grave, faut arrêter de mettre la pression sur la jouissance », ben, il y aurait beaucoup moins de fossés orgasmiques, tu vois. Donc, je pense qu'il y a tout un truc de garder le mystère autour du clitoris et autour du corps féminin pour essayer de... pour juste se dédouaner, se donner des excuses, en fait.
Lutte !
Ouais, zut ouais, alors.
Et puis, bon, si même ceux qui sont censés... être les premiers à pouvoir nous donner des conseils ne le sont pas en mesure, enfin, c'est quand même chaud.
Ah ouais, moi, ça m'a fait froid dans le
nez. Bon, je m'écarte un peu du sujet, mais chez les gynécos, il y a des moments, c'est lunaire comment elles sont, enfin, tu vois, ou comment ils sont, il y en a aussi en masculin. Moi, je suis vraiment tombée aussi sur des femmes par moments, et c'était fou la violence et la méconnaissance qu'elles avaient, même vis-à-vis de nous, jeunes patientes, qui, enfin, moi, j'arrivais à 16 ans, et parfois, enfin, le fossé entre toi, ta première rencontre avec un médecin qui est censé te guider,
ouais,
ce qui va quand même être tes rapports, tes MST ou pas, ou peut-être un jour le fait d'avoir, je ne sais pas, une prolongation de soi, et de voir en fait le gap et l'agression. Ouais. Enfin, moi, comment je l'ai vécu, et tu te dis bah, que c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin, je ne suis pas encore octogénaire, donc voilà. Et en fait, de voir à quel point elles étaient complètement déconnectées, ouais, aucun conseil, même elles, aucun conseil, aucun. Enfin, à part combien de partenaires tu as eu, et dès la première fois, tu es là en mode,
je te dirais pas, tu connais ma mère. Enfin, tu vois, ouais. Comme ça.
Et en même temps, pareil, est-ce que voilà, tu as pris du plaisir, est-ce que tu as envie, enfin, toutes ces notions-là, c'est encore ultra. Éloigné de la réalité, quoi.
Ouais,
enfin, tu vois, c'est un peu, même dans le corps médical, même féminin par moment, c'est chaud, quoi.
Ouais, absolument, ouais. Absolument.
Et petite question à part, t'as quand même kiffé toutes ces découvertes, l'écrire, enfin, t'as eu des belles découvertes aussi ?
Ouais, bien sûr. Enfin, c'était chouette de pouvoir parler beaucoup à toutes ces femmes et qu'elles me racontent leurs histoires de cul, leurs témoignages. C'était merveilleux. Je pense qu'il y a eu un passage qui m'a vraiment... vraiment plaisir, c'était tout ce qui était sur l'aftercare.
Ouais.
Donc l'aftercare, c'est une sorte de moment de connexion. C'est l'espace qu'on va avoir après avoir fait l'amour en général. Mm-hmm. C'est tiré techniquement de pratiques du type BDSM. Donc c'est-à-dire des pratiques où on va avoir des rapports potentiellement de domination, de bondage, qui sont liés à, par exemple, des contraintes ou des liens, s'attacher l'un à l'autre. Et donc on utilisait l'aftercare pour prendre soin, mais littéralement, de l'autre. C'est-à-dire panser les plaies, desserrer les liens. Il y avait une énorme part aussi, du coup, émotionnelle. Donc, c'est-à-dire prendre soin de l'autre après qu'il y ait eu quelque chose d'assez intense. Et donc, même si c'est quelque chose qui est censé être assez kinky et de niche, c'est, mine de rien, je pense, quelque chose d'absolument fondamental pour tout le monde. D'avoir, de se dire, de au moins se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aftercare ? Est-ce que j'ai envie et besoin ? Donc, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras ? Est-ce que j'ai envie de débriefer ? Est-ce que j'ai besoin de parler de comment ça s'est passé, etc. Et j'ai eu des témoignages trop trop bien de meufs qui me disent ouais, moi j'ai vraiment mais j'ai enfin je à chaque fois on va fumer la clope en notre clope ensemble sur le balcon, à chaque fois on va mettre une musique et l'un ou l'autre on va choisir une musique et on alterne, on se fait des câlins pendant au moins un quart d'heure après, et ça fait une partie intégrante de la sexualité. Et s'il y a pas d'aftercare, il y a une meuf qui m'a dit, moi j'ai rompu avec un mec alors que je commençais vraiment à avoir des sentiments avec des sentiments pour lui parce que je lui ai dit j'ai besoin d'aftercare et le mec limite il était encore en moi qui faisait ça tout doux, tu vois, qu'il était déjà en train de penser à ses courses, tu vois, et j'en ai dit ok, je lui ai dit deux fois. À un moment donné, pour moi c'est une partie c'est une partie indispensable de mon intimité. Donc ça c'était trop chouette parce que ça m'a vraiment rassurée sur le fait que il y a beaucoup plus de personnes que ça qui quand même ont conscience de leurs besoins et osent le demander. Voilà.
Okay. Ouais, vive l'aftercare, je pense que c'est la base. Ouais. C'est quand même un moment d'intimité que tu viens de passer. C'est un peu dommage de faire « Aïe, ciao !» Je me casse, enfin, tu vois.
Ouais, mais il y en a plein. Mais tu vois, c'est encore une fois une pote qui m'a dit « Ah ouais, j'ai eu un coup d'un soir, le mec, c'était trop passionnel, c'était trop bien, etc. » Bon, j'étais un peu triste parce que voilà, après qu'il ait joui, ben, il devait partir très très rapidement, donc il est juste parti. Et puis voilà, j'étais juste là, aller faire mon petit pipi post-coït, retourner sur le lit, était seule
mon
tout.
Mon petit pipi.
Mais oui, bah et oui. Elle était toute seule en fait.
Bah
et...
Moi, je sais que je suis plus team. Enfin, il y a beaucoup de mes potes qui ne le sont pas du tout, mais j'aime bien en général, enfin en tous les cas avec mes plans cul, dormir avec. Enfin, je trouvais ça quand même hyper agréable quand t'as passé un bon début de soirée, une bonne nuit. Bon, il y en a pour qui c'est très intime de dormir avec, donc je peux totalement comprendre que ce soit bizarre. Mais moi, le fait de se barrer à 1h du mat, alors que tu viens de passer un moment d'intimité, en plus la nuit est longue, donc tu peux remettre le couvert. Enfin, tu vois, c'est ton jamais si ça s'est bien passé. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été plus team. Tu passes le moment, tu dors avec la personne, parce que tu viens quand même généralement de passer, enfin de te livrer complètement. Et t'en as pas du tout qui se casse Fissa, tu vois, en mode bah on est plan cul, on va pas dormir ensemble parce que t'imagines sinon on mélangerait les deux entités. Mais après bon ça dépend un peu des gens. Mais bon du coup il y a un entre deux.
Ouais, mais faut communiquer quoi, il faut se le dire. Et s'il y a un besoin d'aftercare, il faut que ce soit respecté. Enfin le fait que ce soit encore une fois un deal breaker, que la meuf soit ça veut dire qu'on n'est pas compatible. Si t'es pas capable de me donner les 10 minutes dont j'ai besoin de confort et de douceur, c'est mort.
Ok. Totalement. Et tu parles aussi de la difficulté du sexe sans prise de tête, donc le casual sexe. Mais qu'est-ce donc ?
Ouais, je me dis, peut-être que tu vas pas être d'accord en fait. Mais ouais, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit possible de faire du sexe et qu'il y a rien qui se passe.
Okay.
C'est-à-dire que c'est possible de pas avoir de faire du sexe avec des personnes dont tu n'es pas amoureuse. T'as pas de sentiments. Ça peut être un truc qui va être vraiment juste l'histoire d'une nuit ou de quelques heures et que tu te souviens même pas du prénom de cette personne la semaine d'après. Oui, tout à fait. On peut faire du sexe comme ça. Il y a aucun problème. Après, je pense que le sexe n'est jamais rien. Je pense qu'il y a toujours plein de choses qui se passent. Et littéralement, il y a toujours plein de choses qui se passent. Il y a toujours de la dopamine, de l'oxytocine, l'endorphine qui se libère, la sérotonine. Il y a plein d'émotions qui vont, enfin, plein de choses qui se passent dans le corps, en fait. Et même si c'est un plan cul, même si tu t'en bats les steaks de cette personne, c'est normal qu'il y a des choses qui remontent. Et moi, ça me saoule, en fait, d'avoir encore mes potes qui sont là. Ah, mais c'est pas grave, pas de prise de tête, c'est vraiment sans pression, machin truc. On couche ensemble, mais c'est pas grave. Et je fais oui, ça fait 3 mois qu'on couche ensemble. Il se passe un truc, tu vois. Je dis pas que c'est des sentiments, je dis pas que c'est sérieux, je dis pas qu'il faut rage, faut pas que ce soit lourd non plus, ça peut rester très léger. Mais je pense que c'est hyper important de se dire que pour moi, le casual sex, c'est jamais casual. Et que c'est, et qu'en vrai, accepter qu'il y ait une partie d'émotion, même si c'est pas des sentiments amoureux ou romantiques, c'est pas grave en fait. C'est cool d'en avoir conscience et de se dire bah ouais, il y a un truc qui se passe et ça permet, je pense, de vivre mieux sa sexualité en ayant conscience de ça. Et c'est un peu de vulnérabilité, ouais, mais c'est cool d'être vulnérable.
Bah totalement. Non, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est que c'est totalement possible d'avoir des histoires d'un soir, des plans cul. Enfin, ça veut pas du tout dire que ça veut rien dire. Oui, au bout de 3 mois, quand tu passes un moment avec une personne de manière régulière, évidemment qu'il y a des choses qui se passent. Évidemment que c'est pas salut, sous la couette, bon, et après tu t'en vas, parce que sinon c'est... C'est assez étrange comme façon d'imaginer le sexe. Et bien sûr que... non, et puis ce côté sans prise de tête, en mode « Ouais, j'y suis allée comme ça, j'en ai plein en même temps », c'est hyper cool aussi, mais je trouve que ça fait partie aussi de ce mythe de la super baiseuse aussi, qui aurait 50 histoires en même temps, dont elle aurait un peu rien à carrer, qui au final serait... Enfin, tu sais, ce mythe un
c'est
peu
la meuf
Don Juan au féminin,
c'est la meuf
un peu Don Juan au féminin,
ouais.
Qui du coup transpose le côté masculin un peu du Don Juan bâtard,
ouais.
C'est-à-dire « fuck boy » en « fuck meuf ». Fuck girls,
ouais.
Et c'est un peu dommage aussi, donc non, je te
rejoins.
Ouais,
mais c'est ça, complètement, ouais. Et c'est ce que je dis avec un autre archétype qui est, j'aime bien les archétypes,
ah, oui.
Qui est la meuf chill, tu vois, donc c'est un truc qui a été écrit par Gillian Flynn, mais qui parle justement de cette, tu sais, la meuf qui elle boit des bières, elle fait des plans à trois, elle est partante pour l'anal, elle est détente, pas de pression, on se prend pas la tête, et en fait le truc c'est que c'est un peu le rêve des fuckboys, mais c'est en fait une meuf, un personnage féminin écrite par des scénaristes masculins qui n'ont jamais rencontré de femme, en fait. Et cette meuf-là, sa sexualité, c'est juste de pas avoir d'attentes, et qu'en fait, ses attentes, c'est en fait ce que veut le mec, et c'est juste de pas avoir d'exigence, en fait, de pas avoir de standard. Et on nous promet qu'être une meuf chill, c'est être cool, et c'est, en fait, ça va être hyper valorisé parce qu'on va avoir plein de mecs, on va avoir l'air trop bien, on va avoir l'air trop cool. En fait, non, ça veut juste dire que tu baisses tes standards et que tu te tapes des mecs qui sont nazes. Donc,
et bam voilà. Ok, à toi, meuf chill, si tu te sens...
Non, vraiment...
en fait, c'est que t'as pas de standard.
Il faut juste... Il faut pas essayer d'être chill, je veux dire. Oui. Tu peux être hyper détendu et zen et de pas te prendre la tête, mais c'est complètement normal et ok d'avoir des exigences, en fait. Et c'est, je trouve que c'est la base. Donc ouais, moi, c'est, quand je vois mes copines qui sont là, je... Ah, c'est pas grave, on se prend pas la tête, etc. Je dis, t'es sûr? T'es sûr que t'as vraiment pas envie de te prendre la tête? T'es sûr que tu prends pas un peu la tête à essayer de pas te prendre la tête?
Ouais.
Je pense, j'ai pas envie de te complexer,
hein,
tu
non,
vois.
Mais je m'en fous complet, hein, mais je m'en fous de ce mec. Non,
ouais,
mais
je m'en fous, je m'en fous.
C'est au bout d'un moment, d'un bout de deux heures, t'es là. Apparemment pas. Ouais, ça fait deux heures que tu me niques mon temps avec ton mec.
C'est ça. Alors qu'on pourrait s'éviter tout ce truc de genre prétendre que ça fait rien en se disant, bah ouais, ça me fait quelque chose, mais j'ai pas envie de construire quoi que ce soit avec ce mec. Mais ouais, effectivement, coucher avec lui, il y a quand même un petit truc qui se passe. Tu te mets à poil. Cette personne est en train de mettre son nez dans les endroits les plus intimes de son corps. Et je suis d'accord, on peut avoir un rapport hyper consumériste au sexe. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ouais, c'est un de mes grands combats.
Et bah, il a tout mérite d'être. Et tu parles aussi, j'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce que c'est pour toi l'estime sexuelle?
Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, en fait. L'estime sexuelle, c'est un peu comme l'estime de soi. C'est un peu une forme d'amour propre, en fait. Mm-hmm. C'est le jugement que tu portes sur toi, la confiance que tu as en ta capacité à avoir du sexe que tu estimes bon. C'est-à-dire, en gros, tu penses que tu as un bon coup et que ta sexualité est bonne et que tu vas avoir confiance en le fait que si tu commences à être intime avec cette personne, ça va bien se passer et tu vas aimer la personne que tu es dans cette dynamique. Estime de soi, en gros, mais pour le sexe. Le truc avec l'estime sexuelle, c'est que ça repose sur plein de choses. Ça repose sur le rapport à ton corps, les idéaux de beauté, ça repose sur tes capacités physiques, sur ton histoire familiale, sur tes histoires passées, il y a plein de choses qui vont former ton estime sexuelle. Et bien sûr, des choses qu'on t'a dit lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais ado dans tes rapports sexuels, vont avoir un impact des années plus tard sur ta sexualité. Typiquement, on parlait des enfants, de ta mère qui doit te frotter un peu la vulve à 4 ans parce que ça fait de bien quand tu touches ici, qui va dire « Ah, touche pas, c'est sale, c'est dégoûtant ». À mon avis, cette personne va avoir du mal à se masturber lorsqu'elle fait l'amour, tu vois, 30 ans plus tard. Après, il y a des choses à plus court terme. Typiquement, tu vois, si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu te sens pas bien dans ton travail, si ton estime en général est pas au top, ben forcément, ça va avoir un impact sur ton estime sexuelle, qui va avoir un impact direct sur ta satisfaction sexuelle. Donc moi, ce que je fais à travers ce livre, c'est essayer de donner des pistes pour pouvoir prendre soin de son estime sexuelle, parce qu'on le fait pas souvent et c'est souvent considéré comme un luxe. Alors que j'ai eu encore une fois des témoignages de meufs qui me disaient que depuis qu'elle se masturbe et qu'elle en fait elle se rend compte, ah ouais, en fait je peux éprouver plein de plaisir et je peux le faire ça toute seule, la meuf se sent beaucoup plus en confiance, beaucoup mieux dans ses baskets et elle prend plus de place dans le monde, elle prend plus de place dans le sens, elle va plus souvent interrompre les gens quand elle pense qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire, elle va être juste plus vocale et typiquement elle a demandé une promotion. C'est con, mais ça a commencé parce qu'elle a commencé à se toucher.
Tout part du lit.
Je dirais pas que tout part du lit, mais je dirais que l'estime sexuelle, ça fait partie de l'identité et que c'est important d'en prendre soin si on veut se sentir bien dans tous les aspects de sa vie.
Il y a une question que je me pose, et je sais pas si tu l'as déjà eue, mais alors ça, c'est hors sujet parce qu'il y a quelque chose de très pas mécanique, mais il y a aussi, et moi, je sais pas si ça a un nom ou pas, mais il y a aussi une alchimie, je sais pas, et par moments, t'essaies de dire que ça peut fonctionner avec quelqu'un, mais il y a aussi des moments où j'ai l'impression que les deux énergies ou les deux bails ne collent pas.
Ouais.
Est-ce que, je sais pas, ça t'en parle dans ton livre ou t'as une idée sur le truc, mais il y a des moments où t'essaies, et enfin, moi, je pense que tout part du baiser, c'est apparemment de là que vient, tu peux savoir si tu peux procréer avec la personne, donc normalement, si ça marche pas, le qui, ça veut dire que ça pourra pas marcher plus loin, le cul ne sera pas bon. Mais il y a aussi un truc où même parfois, quand t'essaies, il y a une synergie qui se passe pas entre deux personnes et je sais pas. C'est peut-être un truc qui est complètement hors sujet, mais t'as aussi des fois où t'essaies et t'es là en mode « wesh, nos corps, ils s'emboîtent pas ?»
ou qu'est-ce qui se passe?
Ouais, carrément.
Donc, mais c'est con, enfin, ça n'a pas vraiment rapport, mais il y a aussi ce truc-là de
bah
parfois...
Non, je pense, c'est... Ouais. Ouais, je pense qu'il y a carrément un truc... Enfin, comme tu l'as dit, un baiser, tu peux savoir si tu peux procréer, mais il y a aussi le côté de l'odeur, ça va jouer un rôle hyper important. Et puis, peu importe, enfin, ça dépend d'où tu viens aussi et de tes expériences passées. Moi, il n'y a rien qui me turn off, mais plus que quelqu'un qui va répliquer ce que ses ex aimaient. Tu sais?
Ouais.
Et tu dis là, ok, super, je sais exactement ce que ta meuf aimait, en fait.
C'est bizarre. Ouais.
Genre,
ouais.
Juste répliquer.
À partir du moment où tu parles d'ex dans la relation intime, c'est quand même toujours un peu.
Pendant
étrange.
Le sexe?
Ouais.
C'était déjà arrivé de dire le nom d'un ex pendant le sexe?
Non.
Je vous dis comment c'est.
Ouais.
Comment tu t'en sors une fois,
ouais.
Que tu l'as fait?
Comment, comment tu revenir? Requiers la confiance de la personne alors que tu viens de la paix? Après, bon. Ouais, dans le feu de l'action, j'en sais rien. Peut-être. Non, non, je le prendrais assez mal.
Ouais,
pense.
Moi aussi. Ouais. Ouais.
Ça n'est pas arrivé.
Bref, c'était un petit aparté. Ouais, donc l'alchimie, par contre, il y a un truc qui est assez important justement, c'est les besoins et préférences sexuelles. C'est une partie assez charnière du livre en fait, parce que du coup, lorsque tu es deux personnes, tu vas avoir tes propres besoins et préférences sexuelles, celles de ton partenaire qui peuvent être différentes et clashées, et tu as aussi les besoins et préférences du couple qui forment une entité. En fait, il y a trois personnes dans une relation. Il y a toi, lui ou elle, et le couple. Et du coup, je pense que c'est hyper important lorsqu'on commence, lorsqu'on veut voir un peu sa compatibilité. Donc, c'est plus une approche un peu rationnelle de l'alchimie. C'est d'essayer de se poser la question, quels sont mes besoins? C'est-à-dire, quelles sont les choses dont j'ai vraiment besoin pour que le sexe, je me sente bien et je prenne du plaisir? C'est pas le consentement. Hein. Le consentement, c'est la différence entre un sexe et le sexe et du viol. Là, c'est vraiment, typiquement, moi, je vais avoir besoin de beaucoup de communication, de beaucoup de check-in, tu vois, de vraiment être très, de verbaliser vachement ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un besoin. J'en ai besoin pour que ça se passe bien. Et ça peut clasher avec des personnes qui vont être là. Moi, je trouve que ça casse le rythme, que c'est un gros turn-off, tu vois. Donc là, si les besoins clashent, je pense pas que ce soit possible d'avoir une relation qui soit sexuelle, qui soit épanouie. Je pense que c'est pas possible. Je pense que du coup, dans un couple, si on observe que les besoins clashent, les besoins sexuels, vraiment, t'en as besoin pour te sentir bien dans la sexualité, si ça clash, je pense que la relation ne peut pas fonctionner. Après, t'as les préférences. Donc, c'est un peu les désirs. C'est en fait ce qui t'excite, ce qui vraiment te turn on, ce que t'aimes bien. Ça, ça peut changer. Les besoins, en général, ça reste quand même. C'est très individuel, ça change pas, ça reste. Les préférences, ça peut évoluer en fonction des expériences, de ton âge, etc. Et donc, ça, c'est possible que ça clash, ou en tout cas que ça soit pas complètement en harmonie totale avec ton ou ta partenaire. Il faut pouvoir le naviguer, mais ça, c'est possible si c'est pas exactement la même chose. Mais ce que je trouve assez dangereux, c'est lorsque des personnes vont te faire croire que leurs besoins, que leurs préférences sont en fait des besoins. Tu vois, genre un mec qui va dire j'ai besoin que tu sois comme ça ou que tu agisses comme ça pour que je sois excité. Je pense pas qu'il en ait besoin. Je pense que c'est juste une préférence. S'il a besoin que tu sois soumise pour être turn on, ça me ferait un peu flipper. Tu vois, s'il a besoin de me dominer pour être excité, ça, moi, je dirais red flag. Gros red flag. Mais si c'est une préférence, ok, on peut en discuter. Si du coup, à ce moment-là, le BDSM, c'est un fantasme ou c'est une pratique que tu préfères faire, on en discute. C'est un besoin, ciao, ciao. Mais donc, je pense que ça, tu vois, c'est des sortes d'outils que je mets en place dans le livre et qui peuvent aider à comprendre un peu mieux son rapport à la sexualité et si c'est possible, en fait, que la sexualité dans le couple se passe bien et soit épanouie. Voilà.
Et tu fais aussi la transition entre sexualité et intimité, qui en fait semblent hyper symbiotiques, enfin de prime abord, mais qui ne le sont pas forcément.
Alors c'était pas que ça s'oppose en fait, c'est juste que je propose une ouverture de la sexualité à l'intimité, parce que du coup ce qui se passe c'est que je vais avoir des personnes que j'ai interviewées qui vont souvent me dire comme raison, comme source d'anxiété ou vraiment de peur dans leur sexualité, qu'elles n'ont pas l'impression de faire assez l'amour. Donc la libido c'est vraiment un sujet ouais, classique.
Classique.
Et elles mesurent du coup la santé de leur couple ou vraiment avec le nombre de fois où elles font l'amour par semaine. Et donc forcément c'est hyper dangereux parce que ça peut vraiment foutre en l'air ton couple, ça peut créer des problèmes là où il y en a pas. Et typiquement j'avais une amie à moi qui j'ai retranscrit toute la conversation dans le livre qui me parlait justement de ces angoisses là, alors qu'en réalité elle était très heureuse dans son couple, ouais, et qu'elle se sentait très proche de son partenaire parce qu'ils avaient des moments d'intimité, c'est-à-dire des câlins, des massages, ils s'embrassaient, tu vois. Quand tu t'embrasses à pleine bouche avec ton partenaire mais que tu fais pas l'amour, pour moi il y a pas de problème, ouais. En fait c'est quand même de l'intimité, c'est quand même se sentir proche de l'autre. Je pense que si tant que tu as des moments où t'es là, je suis là, t'es la seule personne qui est importante pour moi maintenant, j'ai envie de te faire du bien, j'ai envie que tu me fasses du bien, et si ça c'est pas canalisé dans du sexe mais dans juste un moment d'intimité, c'est très bien.
Ouais.
Et il faut se déculpabiliser. Et c'est très bien. Je pense que tu peux ne pas avoir de sexe en relation complètement, mais ne pas avoir d'intimité, je pense que c'est pas possible. Ouais. Donc vraiment, c'est se changer un peu ce paradigme et se dire, je veux centrer mon rapport à l'autre autour de l'intimité et pas du sexe. Je pense que ça peut vraiment nous détendre un bon coup et créer une forme de connexion et de vulnérabilité avec l'autre qui est magique.
Non, bah, tu me voles ce que j'allais, les mots de la bouche, quoi. C'est vraiment la connexion, quoi. À partir du moment où tu sens que tu connectes, de quelque façon, ça peut être, mais même un fou rire à un moment où.
Complètement.
Après, les gens sont là, même vous allez dans la friend zone. Non, c'est pas forcément la friend zone non plus, tu vois. À partir du moment où c'est vrai que t'es épanoui et t'as ces sortes de quotas, de. Puis tu sais, t'as des sortes de couples qui essaient de. Je trouve que t'as beaucoup de comparaisons qui sont faites même parfois entre les couples en mode ah bah hier on l'a fait 4 fois. Enfin, tu sais, c'est génial quand tu le dis entre copines et compagnie et que c'est t'es là tant mieux pour toi, mazel tov, t'as joué 4 fois, je suis trop contente pour toi et tout. Mais par un moment, tu sens que t'as une vraie sorte de tableau qu'il faut un peu garder et qui peut être super. Bah, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, pressurisant aussi. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu un cercle vicieux où si tu le fais pas assez, tu te dis oulala, peut-être qu'on le fait pas assez, peut-être qu'on sait moins. Donc le désir s'éveille peut-être moins aussi. Donc la pression arrive encore plus. Et donc du coup, en fait, c'est le début de la catastrophe. Non, mais en fait, c'est un peu ça, c'est vrai. Et puis je pense que si tu te dis pendant 2 mois, bah, c'est déconstruire la sexualité, c'est autant déconstruire l'intimité aussi. Et je pense qu'à partir du moment où tu vis des beaux moments et que tu connectes, mais que ça peut être en effet par des caresses, par un massage, par un gros cuni. Non, je rigole là.
du coup, on va lancer.
Non, en fait, je rigole. Et par des moments de qui sont pas forcément, mais même c'est con, mais les préliminaires parfois sont
On dit plus
radiés.
Préliminaires, Camille.
Oui, non, justement, je me reprends, sont enfin ne sont même plus sont pas considérés comme sexuels. Enfin, tu sais, il y a plein de fois où des potes te disent non, on a juste je l'ai juste sucé ou il m'a juste truc et t'es là en mode donc vous avez fait l'amour,
ma gueule.
Je te jure.
Ouais,
non, mais même si ça part, enfin tu vois, c'est pas tant ancré que ce soit pas un acte sexuel, c'est vraiment en mode donc on n'a pas fait l'amour et t'es en mode bah
quand même un peu.
Vous avez fait, enfin tu vois, vous êtes allé dans l'intimité. Bah non, mais du coup elle avait ses règles et en fait c'est difficile même pour certains couples de comprendre ce que ça va être la sexualité. Et je suis ravie que tu l'expliques aussi bien dans ton bouquin.
Merci.
Quoi, qu'on va redire comment redécouvrir votre sexualité.
Exactement.
C'est vraiment trop bien. Et il y a même un petit quiz.
Bah
à la
fin. Ouais, je me suis dit, tu sais quoi, dans les magazines féminins, on met toujours
j'adorais,
des quiz. Et moi, j'adorais. Ouais. Et je me dis, pourquoi est-ce que j'en ferais pas un canon qui soit en réalité pas neuneux, tu vois, et qui soit bien, quoi. Donc j'ai même mis un petit quiz. Il est illustré, tout mignon.
Et tu sais quoi, à la fin du quiz, si t'es plutôt quoi ou quoi.
Tu sais, vers quel fantasme, en gros, dans quel fantasme t'immerger et quel fantasme découvrir. Ouais,
je vois aussi qu'il y a un petit glossaire.
Ouais, ouais, exactement, petit glossaire des mots utiles
au hasard,
pour le sexe.
Body neutralité.
Ouais.
Toi, t'as le droit d'en tirer un au hasard aussi.
Ah ouais ?
Ouais.
Je vais tomber
j'adore
sur le truc
ça.
Hyper vénère, le cum shot. Ok, je suis tombée sur les fuckboys.
Ah
voilà.
Bah dis donc, bah, tu
parfait.
Vois.
C'est
bah, trop bien.
Franchement,
c'est que du plaisir de t'écouter.
Trop bien.
Ça donne hyper envie de le lire et tu reviens sur sur plein de concepts de la base jusqu'à beaucoup plus, donc allez le lire.
Merci Camille.
Mais de rien, tu rigoles.
Bon, on passe quand même à une petite section cap ou pas cap.
Bah cap ou pas cap.
Trop bien.
Le cap ou pas cap, c'est la section où on écoute un audio Femtasy et qu'on dit cap ou pas cap. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que Femtasy, c'est 350 audios du plus vanille au plus hardcore. Et si vous voulez recevoir un audio gratuit, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Et aujourd'hui, l'audio s'appelle Dégustation. Diane, il est à 360 degrés queer.
Ouais, notre 360, c'est nos audios immersifs où tu entends la personne qui susurre quelque chose dans ton oreille. Tu l'entends tourner autour de toi, qui descend, qui se met derrière toi. C'est intense.
Intense.
Ouais.
Et les petits mots, c'est jouer avec la nourriture, sexe dans la cuisine, sans les mains. Juste avec la bouche. Et la petite description, c'est ce soir, tu t'es lancé dans plusieurs recettes délicieuses pour le dîner. Ta copine vient t'aider en cuisine, les goûts et textures se mélangent et cela vous donne des idées épicées. Allez, on écoute.
J'aime beaucoup cette séance de dégustation. Ah ouais, toi aussi ? Bah vas-y, fais-moi goûter d'autres trucs. Y a quoi pour le dessert, par exemple ? C'est quoi ? De la mousse au chocolat ? Mais tu sais exactement quoi faire pour me faire craquer, toi.
Yann, on entend la petite ambiance.
Ouais, mousse au chocolat, ça commence très très bien.
Ah, oh, j'adore ! J'ai là les gens tout sourire. Canon, alors toi, cap ou pas cap ?
Bah cap, à fond.
Ah ouais.
Ouais, ouais, mousse au chocolat, pourquoi pas? Moi, je suis pas très team sucré, donc c'est un peu difficile d'imaginer en salé. Mais non, cap dans l'idée, pourquoi pas?
En salé,
et toi?
Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec la raclette, c'est ça. bonne tartiflette. Écoute, ah ouais, moi cap, mais carrément.
Ouais.
Ben ouais, c'est pas une pratique que je fais très souvent juste par practicité en fait. Mm. Je trouve que ça colle et tout, et j'ai tendance à être un bébé. Mais non, canon, sexy. En plus, enfin, franchement, la voix de Diane, elle peut me dire tout ce qu'elle veut, en fait. Enfin, je fais tout.
Diane, dis-nous tout.
Tout pour toi, Diane.
Oui.
Trop bien.
Et c'est le moment de la question de la commu, je crois. Ah. Je n'ose pas me masturber pendant le sexe avec mon partenaire, même si je sais que cela pourrait me faire plus kiffer. Que faire?
Ah bah ça, je m'en ai parlé, en plus.
Mais m'aider.
Ouais, mais par contre, c'est chaud. Je pense que c'est... Là, il faut comprendre d'où vient, encore une fois, ouais, déconstruire et comprendre pour d'où vient, en fait, ta peur de te masturber pendant le sexe avec, en l'occurrence, là, un partenaire. Je pense que si c'est toi, t'as honte parce que tu trouves que te masturber, c'est pas bien, je pense qu'il y a énormément de choses à déconstruire et je pense que t'as besoin de potentiellement d'aide, quoi, d'une professionnelle. Donc, pour réussir à comprendre pourquoi est-ce que t'associes la masturbation à la honte, mais t'es pas toute seule, hein, vraiment... On a toutes probablement pas mal de choses à régler avec ça. Après, si tu le fais pas parce que tu as peur de froisser l'ego du partenaire parce qu'il serait pas assez pour te faire prendre du plaisir ou te faire jouir, j'ai envie de dire bah les couilles. Donc en l'occurrence, t'en fous là. C'est pas question de pas froisser son ego, enfin fais-toi plaisir. Le but c'est que lui, je pense qu'il a aussi envie de te faire du bien. Donc si tu as besoin de ça pour te faire du bien, fonce.
Non, 100% d'accord avec toi. Pour moi c'est la base pendant un rapport de se toucher en même temps. On sait que tu as 70% des femmes qui atteignent l'orgasme en se masturbant par elles-mêmes. Donc, à partir de ce postulat, tu sais quand même que tu as de grandes chances de partir et de kiffer d'autant plus en te touchant par toi-même. Je mets la petite technique de l'orbiting, là, ici. C'est la technique du 8 sur le clitoris qui est quand même absolument incroyable et qui a fait ses preuves. Et donc, surtout, fonce, quoi. Enfin, on sait que c'est un pur kiff. Et que c'est la base pendant un rapport. Enfin, même quand t'es en levrette, même quand t'es dans n'importe quelle position, si tu touches par-dessus, t'as de grandes chances que ça aille encore plus vite et encore plus loin et encore plus fort. C'est quand même la devise de Fort Boyard que j'ai là, c'est un truc de ouf. Mais, il faut surtout pas que t'aies honte. Lui, je suis sûre que si ça se trouve, il va dire, mais moi aussi, j'ai envie de me masturber devant toi. Enfin, c'est hyper trendy en ce moment, le fait de se masturber l'un devant l'autre.
Ah ouais, j'adore.
Moi, je trouve ça super excitant. Ouais. Et c'est passé à côté d'une grande partie de sa sexualité de pas le faire.
Ouais, ouais.
Donc, surtout, n'aie pas honte.
Parle-en, quoi.
Parle-en. Et puis, je suis sûre que vous allez vous éclater et ça va rajouter d'encore plus de piment, de piquant, de picante dans votre ébat. Donc non, surtout n'aie pas honte parce que s'il te dit quelque chose et qu'il veut pas, ça veut dire que c'est clairement
red flag, encore une fois.
Et gros red flag, multiple red flag.
Exactement.
Ouais.
Trop bien. Mais
Mais c'est la fin. Mais c'est la fin. Mais c'est fini.
Bah oui. Merci beaucoup, nos chers débauchés, de nous avoir suivis pendant cet épisode un peu spécial. Cet épisode interview sur mon livre. Et puis voilà, c'était présenté par Femtasy. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous mettez des likes, vous envoyez cet épisode à une pote parce qu'on veut être encore plus de débauchés sur cette chaîne. Et si vous voulez recevoir votre audio Femtasy gratuit, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, bisous.